à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission dédiée à la création sonore et radiophonique sur 48 FM. Cet été, nous vous proposons trois grandes étapes. D'abord des luttes, ensuite des voyages et bientôt ce sera l'école. Mais pour cette dernière étape de voyage, c'est un voyage musical en Martinique que nous vous proposons ce soir. Nous vous proposons de découvrir le documentaire de David Comeyas sur Eugène Mona, le nègre debout. Un documentaire mis en ligne il y a quelques jours seulement, enregistré en août 2019, avec un mixage de Samuel Hirsch et une production d'arteradio.com. Un sauvage peut-il être sophistiqué, interroge Christophe Chassol à propos de la musique d'Eugène Mona. En tant que Martiniquais, je suis fier de Mona, de la même façon dont je suis fier de Glissant et Fanon. Chantre de la créolité, ami d'Aimé Césaire, Mona est l'un des plus fascinants artistes antillais du siècle dernier. Tambour bêlé et flûte en bambou suffisent à transcender sa musique racine. Sa voix puissante chante le quotidien miséreux des paysans de son île, les traditions festives du carnaval ou l'histoire de l'ancienne capitale martiniquaise intégralement rasée par la lave du volcan. Celui que l'on surnommait le nègre debout se sera dressé toute sa vie contre le colonialisme et l'injustice sociale jusqu'à sa disparition tragique en 1991 à l'âge de 48 ans. David Comeyas a parcouru la Martinique de long en large pour recueillir anecdotes et témoignages inédits à propos de Mona. Entre deux chants de colibri, on écoute les récits de ses retraites spirituelles dans les montagnes, de ses engagements politiques avec Césaire et des séances d'enregistrement ésotériques jusqu'à l'aube. On écoute donc Eugène Mona dans Le Nègre debout, un documentaire de David Comeyas.
Alors, comment on peut l'entendre ici ? Toi, Christophe Chassol, bonjour.
Bonjour, David.
Tu t'amuses donc à faire chanter des oiseaux que tu enregistres en Martinique sur tes compositions de piano, de rythme, de batterie. Je tiens à rappeler que tu as vraiment cette double culture, antillaise par tes origines et parisienne par ta vie, simplement. Depuis toujours, tu es parisien. Tu pratiques le jazz, les musiques américaines, la musique classique avec une formation au conservatoire, et tu as reçu les traditions des Caraïbes en héritage. Voilà pourquoi tu es peut-être la bonne personne pour nous expliquer ce qu'il y a d'exceptionnel chez Eugène Mona. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît rien de la culture antillaise pour lui donner envie d'écouter Mona ?
Je lui dirais, écoute, il y a une petite île qui fait 70 km sur 30, qui a produit des artistes, mais genre déments, qu'on ne connaît pas assez. Il faut te rendre compte que cette île a produit un genre de musique qui s'exportait dans le monde entier. Des cinéastes, des écrivains qui ont changé le cours des choses pour les droits civiques aux États-Unis. Et parmi tous ces artistes fantastiques, il y en a un, c'est un chanteur qui est très respecté. Il s'appelle Eugène Mona et il est né dans la fin des années 40 et il est mort peut-être prématurément, mais il a laissé un héritage assez dingue. Et c'est des morceaux longs de trance avec des super mélodies, plus énergie, plus vibration positive.
Eugène Mona, le nègre debout.
Une balade musicale de David Cambéas sur une île de pirates, avec des chanteurs légendaires, des flûtes magiques, des grenouilles qui chantent la nuit, et même des zombies ressuscités par des coups de tambour.
Énergie, vibration, positive. Ce morceau d'Eugène Mona a été choisi par le talentueux, célèbre et brillantissime compositeur
Christophe Chacha. Tu peux aussi m'appeler Chassol, Chazuble, je sais pas, j'en ai plein. Chassol, Chacha, Christophe, Chassol.
Pour Chazuble, comme pour la plupart des connaisseurs de musique antillaise, Mona fut l'un des artistes majeurs du siècle dernier. Mona, c'est la fierté et la joie de la Martinique, mais aussi son sang et sa colère.
C'est combat, c'est force physique, c'est fils moral, c'est force, c'est manifestation, c'est force.
On dit parfois de Mona qu'il joue une musique racine, tant elle puise sa vigueur dans la terre volcanique de son île et dans l'histoire de son peuple. Ses chansons font partie du trésor du patrimoine culturel antillais, et donc français. Et pourtant, l'ultime paradoxe, c'est qu'on peut se demander qui, en métropole, aujourd'hui, se souvient d'Eugène Mona. Même à la bibliothèque de Fort-de-France, on trouve assez peu d'ouvrages sur la vie du bonhomme. En ligne, il existe un unique documentaire de 50 minutes, sur les traces de Mona, de Nathalie Glaudon. À regarder absolument, car dénicher d'autres documents sur Mona se révèle presque impossible.
Il faut veiller à ce que la flamme, l'arbre, le vent, l'air, la pelée, la lave Mona continue à vivre et à se répandre.
La majorité de ses albums n'ont toujours pas été réédités, on trouve à peine quelques compilations. L'héritage de Mona semble prisonnier du siècle passé, comme s'il n'était jamais arrivé dans cette époque digitale, trop authentique et trop roots pour être numérisé. Évidemment, un tel mystère autour du personnage donne envie d'en savoir plus. Surtout lorsque Chassol explique encore...
En tant que Martiniquais, je suis fier de Mona, ouais. Je sais pas, je suis fier du gars, quoi. Mais de la même façon que je suis fier que de Glissant, de Fanon, etc. Je suis fier qu'il y ait un gars comme ça, sur cette île, qui est plutôt... Voilà, tu sais très bien ce que je dis, hein. J'ai grandi avec... on me l'a toujours enfoncé, cette île. On m'a toujours dit que je venais d'un endroit... Tu vois, qui n'avait pas une culture démente, etc. Quoi, voilà, donc, mais tu sais très bien de quoi je parle, de la condescendance coloniale. Quoi. Donc oui, la façon dont les gens en métropole voient ces îles, tu vois, elle est très limitée quand même.
Et Mona va à l'encontre de ces idées-là.
Bah, Mona va à l'encontre, je sais pas, en tout cas, il est... un des nombreux artistes qu'on peut mettre en avant pour réparer le fait qu'on ait vécu avec une idée condescendante sur les Antilles. Je sais pas, est-ce que pour toi, un sauvage peut être sophistiqué ? Que la sauvagerie peut être sophistiquée ? Chez Mona, tu as souvent flûte, donc flûte énorme, la flûte, la voix. La voix et la flûte qui remplissent la même fonction. Le tambour, dont les basses font des tonalités, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'au milieu, il n'y a souvent pas grand-chose. Mais on n'en a pas besoin. Je veux dire que Mona me fait penser à la musique indienne, en fait. Disons que l'harmonie est contenue dans peu de choses. On n'a pas besoin de jouer ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire les accords, pour avoir un sentiment du tout. Je veux dire, une goutte donne le cosmos, quoi. Et donc oui, non, j'aime sa musique et je la trouve parce que je la trouve sophistiquée, je la trouve très pensée, quoi. Et ça me fait plaisir pour les Antilles.
Toi, comment ça pour les Antilles?
Je sais pas, c'est la traduction de la négritude, quoi. C'est Glissant et Césaire en musique, quoi. Mais je pense que c'est un intellectuel qui réfléchissait beaucoup à ce qu'il faisait, quoi. Il connaissait la créolité, qui savait qu'il voulait la défendre, la transmettre, etc. Donc c'est un intellectuel, ouais. Un chantre de la créolité, quoi, tu vois.
danse.
Tu sais, ce qui est fou, c'est que je pense que j'ai entendu Mona jeune grâce à mon père. Mais en fait, Mona me fait beaucoup penser à mon père, hein, tu sais, qui s'appelait Eugène aussi. Donc, pour moi, c'est mon père, en fait, avec la moustache, la barbe et tout. Et Eugène, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs, mais à Mona. Je sais pas, j'ai l'impression que je connais depuis toujours, en fait, en vrai. Mon père devait écouter.
Tout seul peut-être m'en pour aller loin, 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 le jour que les manquer ni compagne.
Eugène Mona ne fait pas seulement partie de la famille de Chassol. En réalité, il fait aussi un peu partie de la famille de tous les Antillais. On le chante dans les écoles, on danse ses chansons dans les bals, on enseigne ses mélodies au conservatoire de Fort-de-France. Pendant la plus grande partie de sa vie, Eugène Mona habite la ville du Marigot, au nord de l'île. Débarqué dans cette petite bourgade de pêcheurs à la fin de son adolescence, il travaille d'abord comme apprenti ébéniste sur le chantier de la maison d'un béquet, dans les années 60. Le soir, il fréquente la MJC du Marigot, il s'essaie au théâtre, il joue de la musique. C'est ici que Georges Nilkam, de son vrai nom, devient Eugène Mona. Il commence à se faire une bonne petite réputation avec son groupe de copains musiciens. Sur la pochette de son premier album, sorti plus tard en 1971, on pourra lire « Eugène Mona et son groupe du Marigot ». Pour aller au Marigot, il faut prendre la route nationale qui longe la mer sur la côte est de l'île. Le village du Marigot est niché dans le creux d'une colline, et au bord de la route, il y a un bar avec un nom drôlement choisi pour attirer les clients, le Ghetto, spécialité créole. Sur la terrasse devant le bar, vraiment à 20 cm de la chaussée de la nationale, il y a des chaises de toutes les couleurs, des motifs de madras sur les nappes en plastique, et des papis martiniquais qui boivent des rhums presque aussi vieux qu'eux.
Laisse-moi te parler, laisse-moi te dire, laisse-moi t'aimer comme avant. Ma belle, je cherche, c'est pour toi que je parle.
Quand on rentre dans la salle du restaurant, il y a des affiches d'Eugène Mona partout sur les murs, et cela pour deux raisons. D'abord parce que Mona a vécu la plus grande partie de sa vie ici, dans la campagne aux alentours. Ensuite, parce que le patron du bar, Félix Fleury, a fait les 400 coups avec Mona. Ils partagèrent des scènes de concert aux quatre coins du monde, il fut son meilleur ami, et le meneur de son groupe de musiciens à l'époque où Mona était en pleine gloire. Aujourd'hui, il tient tous les jours le comptoir de son ghetto.
Alors, le ghetto, c'est avec Eugène, on ne trouvait pas, quand on sortait de spectacle, d'endroit pour pouvoir manger, se restaurer. C'était chez lui que tout se passait. À 2-3 heures du matin, on sortait du spectacle, on allait chez lui, il faisait à manger, tout ça. Et ma mère, qui possédait un bar, il m'a dit, écoute Félix, reprends ça, on va essayer de redynamiser le secteur. Et Mona m'a dit, on va appeler ça le ghetto. On ne va pas appeler ça le Majestic ni Georges V. Ça n'a aucun sens.
On boit, on mange, on s'amuse.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Cette affiche de 1983, c'est à l'Élysée Montmartre. Eugène Mona et sa flûte magique. Et en concert, les 1, 2, 3, 4 juin 83.
Et on voit Mona quand même avec un regard incroyable.
Oui, incroyable, oui. Ah oui, là, il hypnotisait le public quand il était sur scène comme ça. C'était un monstre. Hein,
c'est pas moi qui n'a un problème.
J'ai été ami avec Mona quand il est arrivé chez nous dans les années 70 jusqu'à sa mort. Mona et moi, nous sommes connus au sport. Il est monté à Marigot de Fort-de-France en travaillant avec un ébéniste. Et après travail, il venait au football avec nous. Il nous a invités chez lui une paire de fois pour écouter certains morceaux qu'il faisait à la flûte. Bon, il a commencé à mettre des instruments. Et Félix tape sur le bambou, là. Et celui-là tape sur la batterie. Et puis, on s'est pris au jeu. Jusqu'au jour où il nous dit, « Bon, ben, il y a un spectacle de prévu. Et rendez-vous à 13h au podium. » Alors, j'ai dit, « Au 13h au podium. » Mais nous ne sommes pas musiciens.
Donc, du coup, c'était le premier concert de Mona ?
Non, ce n'était pas le premier concert de Mona. Mona avait l'habitude de tourner tout seul avec sa flûte dans toutes les fêtes patronales de la Martinique. Mais à ce moment-là, on écoutait essentiellement que la musique sud-américaine. On était bercés par ça.
Donc la Martinique entière danse au rythme de la musique sud-américaine, de la salsa, du compas haïtien aussi. Et lui, il est quand même un peu à contre-courant de son époque, non ?
Cette musique que Mona nous a initiée, je le faisais par amitié pour lui. Mais il a réussi à nous faire comprendre que c'est notre musique. Et cette musique-là, c'est une musique d'avenir. Nous, on était pratiquement avec Mona des moins que rien. Où est-ce qu'il va avec son tambour et puis sa flûte C'est un peu ça, cette musique de vieux nègre, mais ce n'est pas vieux nègre dans le sens péjoratif. Ce sont les vieux d'antan.
Pourquoi nègre debout ? On l'appelait nègre debout.
Un nègre debout, en créole, oui. Oui, parce que Mona avait un frein parlé. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait.
Il y avait aussi le nec debout face à la métropole et en tout cas l'idée qu'on se faisait des Antilles. Il y a une chanson où il dit ils ne veulent pas sentir la sueur, notre sueur.
Voilà, et cette sueur là, il te disait que c'était la richesse, cette sueur c'était la richesse des colons, des béquets, mais en contrepartie il n'y avait rien, il n'y avait que dalle.
Mwen leve le matin mwen ka pran bout kòd la mwen ka mare mwen pou mwen ay fè tran mwen y gade zanimo mwen le 6 mwen fini mwen ka pran gòn oua mwen ka leve zye mwen pou mwen mande kouraj a la dignité.
Lorsque je me lève le matin, je prends le bout de la corde, je la mets autour de mes reins et je regarde mes animaux. À 6 heures, j'ai fini, je prends la grande roue, je lève les yeux au ciel pour demander du courage à la divinité, pour qu'elle puisse me donner un moyen pour que je ne ressente pas la misère. Dieu m'a fait pour ça. Il m'a donné un bois brûlé, il m'a donné beaucoup de soins et je suis bien résistant selon les exploitants. Je ne suis pas beau, on n'est pas fait pour le luxe, ni pour le calice. On a le droit d'être admis d'après ce que je vois. Les paroles de Boisbrier, c'est quand même quelque chose. C'est incroyable.
Pour le moment là, ça me fait penser aux retraites. Au fait que tu sois usé à un certain âge, quoi, tu vois. La pénibilité, en fait. Et disons, bah, l'exploitation de l'homme par l'homme. Après, voilà, bon, les paroles, je les comprends, mais il pourrait raconter qu'il voit des petites licornes sur la falaise, tu vois, je pense que ça me ferait la même émotion. Bon, peut-être pas quand même, mais a priori, parce que la mélodie, quoi. Juste ce truc, c'est super fat. Moi, c'est comme ça que je vois le classicisme. Il y a tellement peu d'instruments, des choses tellement basiques, mais que lui malaxe avec ce qu'on pourrait appeler une modernité, tu vois, avec un esprit moderne. Mais le mec lisait beaucoup, il était dans la littérature, donc les formes, il avait ce souci. Je pense qu'il devait beaucoup réfléchir aux formes. Mais j'ai l'impression qu'il y avait il y a quand même un certain classicisme, quoi.
Est-ce que c'est pour ça qu'il marchait pieds nus ?
Alors, c'était très spirituel. C'était pas marcher pieds nus pour marcher pieds nus, c'est pour avoir cette vibration de son sol, ne pas se laisser, comment je vais dire, déconnecter de sa nature. Même à Paris, hein, en hiver, on était à l'aise. Il était plus ancré sur sa personnalité. Il te disait que quel que soit là où je,
vais, il faut qu'on sache que je suis un Martiniquais. Je suis Martiniquais français, mais je suis Martiniquais. C'est ma région, c'est comme le Corse, comme le Breton. C'était lui. Bon, quand il arrive en quelque part, il disait, ça c'est Mona. Ah oui, il me dit, avec ces instruments-là, je ne vais pas encourir le monde.
Avant de s'installer au Marigot, Eugène Mona grandit dans les années 50 en banlieue de Fort-de-France, dans une case modeste avec ses deux sœurs. Sa mère fait des petits boulots, vend du charbon au marché, travaille un temps à la romerie d'Ilon. Son père joue de l'accordéon dans les bals populaires de la ville. Je décide d'aller traîner dans ce quartier populaire pour voir s'il reste quelque chose de leur maison de famille. En me baladant sur les trottoirs de Morne-Calebasse, j'enregistre un peu au hasard les bruits de la rue, les moteurs de voitures, les discussions des passants, et tout ce qui se présente à mon micro. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je passe pas inaperçu ici, avec mon énorme casque sur les oreilles, ma perche, mes micros dans les mains. J'ai un peu l'air d'un pingouin qui aurait perdu sa banquise. Parmi les gens qui viennent me demander spontanément ce que je fais ici, il y en a un qui me dit...
On a vécu ensemble un peu, quoi. Quand j'étais gamin, on a vécu un peu ensemble.
Ici, dans ce quartier, Morne-Calebasse.
Ouais, dans ce quartier, Morne-Calebasse.
Je tombe par hasard sur un ami d'enfance de Mona qui habite toujours le quartier. Il m'embarque dans sa voiture et c'est parti pour une visite guidée.
Le nom de cette rue.
Le nom de la rue, c'est la rue de la flûte des Mona. Ça, c'est le nom d'une chanson à lui aussi.
Oui, et puis de son instrument de prédilection.
Voilà, c'est ça, la rue. Avenue Eugène Mona, voilà, c'est ça. Toute cette rue, c'est Avenue Eugène Mona. Tu vois, le Passiano, ça, c'est une chanson à lui aussi.
Ouais.
Ils ont donné toutes les petites rues qui sont ici, plus ou moins, c'est le nom de ces chansons. Voilà, c'est la maison, tu vois, la maison Tulle là-bas. Là. Tu vois, dans le coin là-bas.
Ouais, ouais, je vois.
Et c'est là qu'il a, du moins, il habitait toujours, jusqu'au dernier moment. Hein. C'était une petite baraque de rien du tout, quoi. De toute façon, ici, il n'y a jamais de riche. Hein. Tout le monde se démerdait comme il pouvait, quoi. Je ne sais pas, sa maman, elle travaille à l'usine d'Ilon.
Les Roms d'Ilon.
Voilà, ouais. En bas, là, à côté.
Michel, comment est-ce qu'il fait pour... Comment est-ce qu'il fait? Mon Dieu! Venez là. Eh bien.
Dans son jardin, il faisait déjà de la musique?
Ah, mais depuis tout petit, hein, plus ou moins. Depuis quand je l'ai connu, il a toujours fait ça, lui. Il se fabriquait sa flûte tout seul, avec des bambous, il faisait sécher, il faisait ses petits trucs lui-même, quoi. Il a toujours fait ça. Hein. Ouais, il avait fait un concours de chant, mais bon, ça n'avait pas marché. Il était très déçu.
Quand vous veniez ici, il se trimbalait déjà pieds nus partout dans le quartier?
Toujours. Je l'ai toujours connu comme ça. Dans le quartier, il était toujours pieds nus.
Déjà, donc il a vécu toute sa vie pieds nus, en fait?
Ouais, plus ou moins.
Moi, je m'appelle Robin Antonio, j'ai 18 ans.
Pour les jeunes ici, Eugène Mona, ça... Est-ce que les jeunes écoutent quand même un peu Eugène Mona?
Non, ils n'écoutent pas, ils connaissent, mais ils n'écoutent pas. Après, c'est un grand homme, forcément, parce qu'il a marqué toutes les générations avec son pied nu. Donc voilà, c'est notre culture. Faut pas ignorer notre culture, faut pas ignorer notre passé.
Au cœur de mes soleils, grand soleil, vous chauffez-nous, piste nous nid enchanté. Au cœur de mes soleils,
Au regard de mi-soleil, bon soleil, vous plairez nous. Pour banon noir parler, un hommage à CC. Pour intelligence libre, il prend soleil à Paris. Mené ici, banon, ça qui pour ça qui compte. Arrivé comprendre ça, qui manière n'est-ce en 1700, vive chel. Oh, vive la, pero ma dise. Ma chance c'était pour intelligence. Prends soleil à Paris. Ça qui pousse, ça qui compte.
C'est aussi dans ce quartier de Morne-Calbas qu'est situé le bureau de Jacob Nayaradou, au second étage d'un petit immeuble en ciment. Assureur de profession, Jacob Nayaradou était aussi un artiste sous le nom de Jackie Nayaradou dans les années 60. Et il a surtout produit sur son label l'un des plus riches catalogues antillais.
3A. Voilà, production 3A.
Mona enregistra 4 albums avec lui, à partir de 1976. Ils partagèrent plusieurs sessions de studio ensemble, qui se terminaient souvent à l'aube, avec la gorge complètement desséchée et des cernes sous les yeux profondes comme des volcans. Mona s'arrêtait au petit matin, quand il avait tout donné. Chaque enregistrement était un marathon. La musique a toujours été l'une des grandes passions de la vie de Jacob Nayaradou, mais son planning d'homme d'affaires est aussi bien chargé, la preuve. Nous avions rendez-vous aujourd'hui à 17h, il est déjà 17h38, il est 17h57, il est juste 18h23, il est 18h31, bon bah il est 18h43,
il est 19h13.
Les bureaux se sont complètement vidés, et la nuit est tombée sur Fort-de-France lorsque Jacob Nayaradou ouvre finalement la porte de son bureau. Alléluia! Jacob Nayaradou est un monsieur sérieux dans son costume d'assureur, et il ne mâche pas ses mots derrière sa moustache poivre et sel. Dès que je sors mon micro, il se présente spontanément.
Nayaradou Jacob, gérant du label 3A, martiniquais, âgé de 71 ans. Un assureur, avant tout un assureur, qui a trouvé que la musique n'était pas prise au sérieux, l'organisation de la musique n'était pas prise au sérieux au niveau de son département, de son île, et a voulu essayer de l'organiser. Peut-on dire qu'on a réussi? On peut dire un petit peu que oui. On a produit 350 disques, 4 ou 5 disques de Mona. Nous avons fait un disque qui a marché très fort, Doudou Ménard.
En tant que producteur, c'était comment une session de studio avec Eugène Mona?
C'est un scénario. Hein. C'était le studio à 4h du matin, il ne fallait pas entrer. Hein. Il fallait le laisser en pleine concentration. Il avait beaucoup d'huile dans les flûtes, hein, une vingtaine d'huiles hein, différentes. Il passait de l'huile dans les flûtes, des huiles essentielles. Donc chaque flûte a une huile, chaque morceau a une huile. Hein. Il y a beaucoup de magie dans le monaesque. Hein. Je dis ça le monaesque. Hein. C'était sa façon d'être. Hein. Donc l'été aussi, il prenait un thé en studio, il faisait des pauses en prenant son thé. Il y avait, je vous dis, de 4h du matin à 7h du matin, c'était la création de l'énergie. Hein.
C'est-à-dire la création d'énergie?
Dans les disques de Mona, vous voyez bien que dans les chansons, il y a une forme d'énergie, il y a une énergie qui lui est propre. Hein. C'est inné en lui, mais il faut bien qu'il la communique aux autres, donc il prépare ses musiciens à entrer dans cette forme d'énergie avec lui. Hein.
Est-ce
qu'il était un peu à contre-courant de son époque? Enfin, je veux dire, c'était une époque où tout le monde allait vers les villes, lui se réfugiait dans la campagne, il jouait du tambour alors que tout le monde était un peu atterré par les sonorités nouvelles.
C'était son style à lui. C'était donc, il avait choisi d'amener la flûte des mornes dans les villes, dans la ville, en Fort-de-France. C'était l'essentiel des spectacles qui se passaient dans Fort-de-France à cette époque. C'est la campagne qui descend en ville, la musique des mornes qui descend. Ce n'était que porter une culture martiniquaise le plus haut possible. Ce n'était que laisser de la culture, des traces, parce que si on n'avait pas produit tous ces monas, hein, parce qu'à l'époque, vous savez, pour faire passer ça à la radio, ce n'était pas facile. Hein. N'oublions pas qu'on m'a accusé de produire un nègre à pieds nus. Hein. C'est, je l'ai dit à la télévision, on suit les ondes. Hein. On me disait, comment puis-je produire un nègre à pieds nus, hein. Mona, c'est la négritude en musique. Je l'ai moi-même dit devant Aimé Césaire, hein, en baptisant l'avenue Eugène Mona, tout près d'ici. Mona, c'est la négritude en musique.
Vous pensez à la chanson que vous avez produite « Mi-moi, mi-ou » ?
Quand il y a eu cette victoire d'Aimé Césaire à Fort-de-France, devant feu M. Valère, il est clair que cette chanson était une chanson très politique. Hein. Il est fait que c'était une chanson pour valoriser la victoire d'Aimé Césaire. Voilà. Vous savez, Mona fréquentait beaucoup le Parti Progressiste Martiniquais à cette époque.
Et sous vous en valez,
non, non, non.
Vous faites courage,
non, 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 non.
Vous dites bonjour, monsieur,
non, non, non.
Cadez ou bonsoir, madame,
non, non, non.
Hop,
pas besoin, valez.
Hop,
On
va dormir tête en bas,
pas besoin, valez.
On va manger charbon,
mais
sous ces bêtes, c'est bite,
pas besoin, valez.
Les débits, c'est moi-même. C'est bête, c'est bite.
Pas besoin,
valet. Le débit, c'est moi-même.
Maquée par maman.
Hop,
Pas besoin, valet.
Hop,
Maquée par maman.
On va dormir tête en bas.
Pas besoin, valet.
On va manger charbon.
Maquée par maman.
Et tous ces bêtes, c'est bite.
Pas besoin, valet.
Le débit, c'est moi-même.
Maquée par maman.
Je crois vraiment à l'homme, à l'humanité et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes qui ne considéraient comme des nègres, autrement dit des rien.
Est-ce que Césaire et Mona se voyaient beaucoup?
Oui, parce que Mona fréquentait beaucoup le CIRMAC, hein, l'école bâtie par Aimé Césaire. Il fréquentait beaucoup le PP, le Parti Progressiste Martiniquais. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que bon, c'était pas trop ça, c'était pas l'autre, sa personne. La personne, c'était plutôt l'art, l'engagement musical, etc. Il n'a pas voulu rester dans cet aspect politique des choses.
Et qu'est-ce qu'il avait attiré dans cet aspect politique des choses?
C'était un homme engagé. C'est un homme engagé, donc c'est un petit peu l'identité, un combat pour l'identité martiniquaise. Hein. Oui, ça l'a attiré, ça, au PPM.
Ben non, nègre, vous m'appelez? Eh ben oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Césaire a fait jouer Mona, il lui a ouvert le théâtre de Fort-de-France. Voilà. Et Césaire lui a ouvert la porte, disant, non, un gars comme ça, il a sa place. Césaire l'adorait, en fait, toute la génération adorait Mona. Et Césaire glissant, tous les gars de la créolité qui étaient présents à l'époque adoraient Mona. Quand ils avaient l'occasion, ils se voyaient en privé, sans nous.
En 1983, Eugène Mona apparaît dans le fameux film « Rue Cazenègre », un classique du cinéma antillais. Il joue le rôle d'un paysan rusto qui transpire dans les plantations de canne à sucre. Au cinéma comme en littérature, Mona fréquente les grands virtuoses de sa génération. Il s'inspire particulièrement de Césaire pour la poésie créole, l'engagement politique, et il échange pour la musique avec le flûtiste Max Silla, qui devient pour lui comme une sorte de mentor mystique, obnubilé par l'idée de la création, au sens spirituel du terme. Nous sommes dans les années 70, Mona et Silla partagent le goût de la liberté et les mêmes intérêts pour le naturalisme, le psychédélisme, toute forme d'art et de spiritualité. C'est aussi leur quête identitaire qui les réunit, leur façon de vivre. Max Silla continue aujourd'hui d'entretenir cette philosophie dans laquelle la musique accompagne chaque instant important de la vie, les mariages, les naissances, les décès, et aussi le quotidien ordinaire dans les campagnes antillaises. À 77 ans aujourd'hui, Silla trimballe toujours son instrument avec lui, même quand il a rendez-vous pour une interview.
Ça, c'est mon sac de flûte. Celle-là, elle est en sol.
D'une certaine façon, c'est le bambou qui donne naturellement la tonalité de la flûte.
Oui, qui prédispose pour telle ou telle tonalité. On ne touche pas à la colonne d'air, c'est une colonne d'air naturelle de la plante.
Dans la tradition bouddhiste, ils disent le bambou, c'est la flûte du zen, parce que ça pousse autour du vide. Vous savez, vous abordez un sujet très complexe, parce que j'ai étudié pendant des années avec un maître de lutherie, et il y a une relation au bambou, à la plante, qui est très importante. Déjà, le fait même que l'instrument n'est pas disponible de manière commerciale, c'est-à-dire on ne peut pas aller dans une boutique dire « je vais m'acheter une flûte de bambou » comme on va s'acheter un saxophone, une clarinette. Donc, il faut déjà une relation avec un artisan. Voilà, c'est ça toute la différence. C'est que ça ramène à une vie paysanne. On prenait le temps, il y avait une relation humaine et une transmission, un phénomène de transmission entre celui qui a l'expérience, qui a la connaissance et celui qui veut apprendre. Donc, il y a beaucoup de lois à connaître. Et en même temps, ça fonctionne beaucoup sur l'intuition. Je suis Max Silla. Celui qu'on nomme aux Antilles le père de la flûte des morts. Je suis à l'origine de la restauration et la réhabilitation de cette flûte des campagnes. Et ensuite, j'ai enseigné à de nombreux élèves, dont Eugène Mona, bien sûr. A consisté non seulement à faire émerger cette flûte comme symbole, vraiment comme symbole d'invincibilité. Cette flûte des mondes devenait une sorte d'exutoire, un vecteur pour lequel on pouvait exprimer son blues. C'est comme le blues pour l'afro-américain qui a mené une vie dure dans le sud des États-Unis et qui se retrouvait dans son blues. Eh bien, et la flûte de bambou, et le belay aussi d'ailleurs, tout le chant belay, c'est une affirmation de notre authenticité, de notre force de volonté de vivre, d'être et d'exister. Et j'ai rencontré Eugène Mona exactement à la commune du Robert, à une soirée dansante en décembre 1970. Cette soirée dansante était animée par l'orchestre La Perfecta. Et c'est à cette occasion, j'ai fait le bœuf avec La Perfecta. Et ensuite, je suis redescendu dans le public. Et à ce moment-là, je vois venir vers moi un grand jeune homme noir, bien balancé, et qui me dit « Vous pouvez laisser mon gars des flûtes au roi, est-ce que tu peux me laisser regarder ta flûte ?» Parce que pour se lancer, il envisageait la clarinette ou le sax, un instrument plus officiel, quoi, disons. Mais je lui dis « L'instrument avec lequel tu vas le mieux t'exprimer, qui va correspondre à qui tu es, c'est cette flûte de bambou. » On se voyait, il venait chez moi, souvent, et je lui faisais bénéficier de mes expériences, parce que je venais de fréquenter à Paris des clubs de musique cubaine. Il y avait un club, oui, Monsieur le Prince, et le quartier latin, qui s'appelait l'Escale. Il y avait un orchestre cubain qui jouait à la cave, et au rez-de-chaussée, il y avait des joueurs de harpe indienne, des joueurs de quena. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que notre flûte des campagnes ne soit pas reconnue. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et quand j'ai rencontré Mona, j'ai vu qu'il avait le profil de la personne qui pourra le mieux me comprendre et être un peu le relais de ce projet sur le plan pratique. La flûte, c'est notre âme. C'est la lumière des sphères supérieures, éthériques. C'est le messager des dieux qui vient se conjuguer au tambour pour donner quelque chose d'extraordinaire. Le tambour exprime davantage l'enracinement aux énergies telluriques. D'ailleurs, c'est fait avec les troncs d'arbres hein, et puis la peau d'animal. Hein. Et c'est aussi la lutte, le tambour, c'est tout ça. La musique de Mona, c'est beaucoup un combat spirituel, c'est tambour sérieux. Tambour sérieux, c'est-à-dire le tambour, c'est quelque chose de très sérieux, de très important. Le totem du peuple noir. Et Mona a composé Tambour Sérieux, qui est un thème extraordinaire.
Mona wale à la ho, 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 Mona wale à la ho.
C'est un instrument qui nous a servi de téléphone, qui nous a servi pour nous révolter, pour nous apaiser, pour nous faire danser. Donc c'était un symbole pour lui.
Mais j'avais l'impression que le tambour aussi pour lui n'était pas juste okay, ce rapport à l'Afrique, ce rapport à l'esclavage évidemment, mais aussi le coup de tambour est un coup de tambour qui réveille les consciences, qui fait passer de la réalité au mystique ou du mystique à la réalité.
C'est justement c'est le côté spirituel, c'est le tambourier qui gère les deux danseurs de Ladia ou de Damier. Et les anciens nous expliquaient, avec un coup de tambour, tu peux faire le danseur qui est devant toi tuer l'autre. Avec un coup de tambour. Et tu peux aussi le faire perdre le combat avec un autre coup de tambour. Il faut rentrer dans la culture profonde. Les croyances d'Antoine Mona étaient très croyants. Il te dit, un coup de tambour peut réveiller un mort. Si on veut parler de zombies, par exemple, bon, et à Haïti, le mort vivant. Et le tambour permet de réveiller les sens de ces gens-là.
T'as compris ça?
Non.
Maman, il a paré pour tuer tambour. L'enfant est prêt à tuer le tambour.
Tuer tambour.
À tuer le tambour. Qu'est-ce qu'on entend là? L'enfant m'a dit, le tambour c'est une personne, il faut la soigner. Je demande la vie au tambour. Putain. Ça tue. Ah, ça tue. Qu'est-ce qui tue? Je sais pas, tout, la conception, comment les choses repartent, comment il suspend le temps, comment il enroule sa voix avec comme du caoutchouc, tu vois, il te tient en haleine, et tu sais que le beat va repartir, mais tu sais pas quand, il y a de la dance, de l'électro, je veux dire. Ça tue parce que les paroles tuent, Bah, tu vois, c'est le sculpteur, il s'amuse. C'est vrai que sa voix, il est vraiment fort, il arrive à faire ce qu'il veut avec sa voix, c'est un élastique. C'est du caoutchouc qui modèle, quoi. C'est hyper bon.
Eugène Mona.
Sur scène, on pourrait croire que Mona est entré en transe. Je me rappelle à la Mutualité à Paris, où il a fait des jours pleins, 5 jours pleins, 6 jours pleins même. Comment la sueur dégoulinait du corps, comment... Et chaque chanson, c'était une transe particulière, mais c'est une transe naturelle. Hein. C'est une communion avec le public, communion entre le corps, l'esprit et la musique.
Et vous étiez là, la Mutualité, c'était comment le public, il a reçu comment cet artiste?
Il faut trouver les jazz hot de l'époque, et il faut les trouver si vous les trouvez. On lui a rendu un hommage manifeste, jazz hot, toutes les radios lui ont rendu hommage, Radio France... beaucoup de gens sont venus. Il y a eu des artistes comme Gilbert Bécaud à ce spectacle. Christiane Hédapierre est venue lui rendre hommage, etc. C'était à ce moment-là. Hein. Et Jazz Hot avait dit « Une étoile du monde noir est née. » Une étoile du monde noir est née. Ils ne se sont pas trompés.
Il y a eu la mutualité, on était là-bas, et c'est l'un des spectacles où on a vu Mona décoller du podium. Il y avait du monde. Les organisateurs avaient un peu peur parce que à cette époque-là, les spectacles antillais étaient très mal vus, dans la mesure où il y avait toujours une bagarre après. Là. Et Mona avait canalisé ce public-là. C'était quelque chose de terrible. Deux heures et demie de spectacle non-stop. Et avec Eugène, avec sa stature, 90 kilos, pratiquement 1m90. Et quand il était sur scène, c'était un monstre. Et il se donnait corps et âme. Et il fallait que derrière, on soit aussi à son niveau. Et le physique prenait un coup aussi.
Comment ça, le physique prenait un coup?
Oui, parce que bon, ben, si tu n'étais pas prêt physiquement, parce qu'il faut te dire que Les répétitions se faisaient sur le stade. C'était 10 tours de piste avant de faire de la vocalise. Il fallait qu'il soit toujours en action pour évacuer et le stress et ce trop plein d'énergie.
Oh non, monsieur, oh non, monsieur. Oh, monsieur, c'est pour nous souffler. Oh non, monsieur.
Quand il a joué à la mutualité, il a eu un tel succès qu'il y a un agent qui est venu le voir. L'agent lui dit: vous avez un charisme extraordinaire, vous avez une voix, tout et tout, un talent extraordinaire. Je peux faire de vous une grande vedette internationale, un peu dans le genre Otis Redding, qui à l'époque était un des grands porteurs de flambeaux du rhythm and blues, parce que Mona, c'était le genre de charisme comme ça, quoi. Grand noir, et bougeant sur scène, animateur. Donc le gars, cet agent lui dit ça, seulement... vous allez reconsidérer votre look. Ce sera costard, souliers vernis, nœud papillon, enfin, le profil du showbiz classique. Mona m'a dit, il a regardé le gars. Il a dit au gars, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Je n'ai rien assuré de votre fameuse promotion internationale. Parce qu'à ce moment-là, je me sentirais une marionnette. Je ne serais pas moi-même. Donc ça ne m'intéresse pas.
Ta mère ne dort jamais, ton père est un cimetière. Même avec l'homophatique, tu vas grandir, Elaini. Tout nu au jour que s'ennuie, elles ont grandi en duit. Elle n'a qu'une part du poids, mais ta race à foi et voix. Gouache, 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 il fait mal, il fait mal. T'as t'es ni joie ni loi. Maman, ancêtre, c'était Chiman. Ancêtre, papa, c'était Bouy. Nous sémillés, mais nous solides.
Reçoit la visite de Bruno Cocatrice, qui était le directeur de l'Olympia. Et il avait dit à Mona, quand tu veux, je suis preneur. Et Mona avait répondu à Bruno Cocatrice qu'il n'était pas encore prêt. Après, quand Bruno est parti, on s'est un peu engueulé. Tu sais très bien que ce n'est pas n'importe qui passe à l'Olympia, et tu refuses. Avec un large sourire, le gars nous sort, on n'est pas encore prêt. Quand nous sommes prêts, je vais vous le dire.
Est-ce qu'il aimait venir en métropole ou est-ce qu'il se sentait pas bien là-bas ou est-ce que...
Mona se sentait bien partout. Il était ancré dans sa culture ici. Il nous expliquait tout le temps, je préfère partir de chez moi et rayonner au lieu de rester là-bas, perdre une certaine vibration que ce sol-là m'apporte. Il connaissait toutes les plantes médicinales de chez nous. Lui, c'était ça, c'est sa nature. Quand la mer est un peu forte comme ça, houleuse, c'est à ce moment-là qu'il a dit, bon ben, je vais dans les vagues. C'est cette puissance des vagues qu'il recherchait pour pouvoir retransmettre sur scène.
Est-ce que c'est vrai qu'il faisait des retraites à la montagne Pelée?
Oui. Le vendredi, Mona ne jouait pas de musique. Ça rappelait le vendredi saint. Il a quand même fait une démarche spirituelle au niveau de pratiquement toutes les obédiences qu'il y avait, que ce soit catholique, adventiste. Enfin, il a fait la démarche. Et ensuite... il s'est dit, ma démarche est terminée et je vais appeler l'Éternel papa. Quand il prie, c'est papa qui le dit. Et le vendredi, il disait, je prends ce jour-là pour moi. Il priait, il méditait, il écrivait. Il pouvait rester là 22 jours, hein, tout seul là-haut, hein, à la montagne Pelée. Et pas au premier abri, hein, tout en haut de la montagne, au fait même de la montagne, où on voit pratiquement toute la Martinique.
Il est passé par plusieurs phases. Hein. Il y a même une phase Rastafari à un moment, hein, qui, où les gens l'ont beaucoup descendu en flèche. Hein, on n'a pas compris. C'était une recherche. Hein. Et il a fini, effectivement, totalement dans la religion catholique. Hein. Les prêtres. N'oubliez pas qu'à sa mort, il y a eu 5 curés. Hein. 5 prêtres qui ont fait sa mort. Hein. Les 5 prêtres sont venus faire sa mort. Mona, les prêtres, à sa mort, ont dit qu'il avait un don de Dieu. Il avait effectivement un don en lui. Hein. Il allait vers le haut, pêcher vers le haut pour ramener vers le bas. C'est de la spiritualité, là. J'ai nommé ça du monaesque. Et puis, il y a un truc très important que dans la philosophie monaesque, que l'on n'a pas beaucoup vu, c'est que Mona était habité par l'idée de la mort. Très tôt, il en parlait souvent. Hein. C'est philosophique, ça aussi. L'idée de la mort, il fallait en parler, comme beaucoup de philosophes en parlent. Hein. Bon. Parce que Mona était un artiste philosophe. Vous avez l'hymne à la mort, « Agulus c'est la mort ». C'est pour montrer que pour lui, la mort et la vie, ça marche ensemble.
Ça, c'est l'hymne national de la mort. Parce qu'en passant, si les morts ni le souvenir, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi et pour, nous savons, nous qu'ils passer par le chemin de la mort. Oui, nous qu'ils passer par le chemin de la mort. Oui, nous pour passer par le chemin, ils ont crié « chemin, chemin la mort ».
Vers 1984, Mona décide de s'éloigner un moment des studios d'enregistrement. Il entame une phase mystique. Il se retire loin du monde pour étudier la méditation tibétaine, les rites sacrés des Indiens et la philosophie du Négus, Selassie, le dieu des Jamaïcains. Les journaux l'oublient un peu, les radios diffusent moins ses chansons. Et lorsqu'il tente de revenir, en 1991 avec l'album Blanc Manger, le public n'est plus vraiment au rendez-vous. Mona voudrait s'adapter au son moderne, mais ses claviers modifiés sonnent un peu kitsch, voire très kitsch. Ce morceau, Face à Face, aura malgré tout un certain succès. Il entreprendra ensuite de former un big band, une fanfare composée d'instruments traditionnels martiniquais, pour représenter sa musique lors d'une grande tournée internationale. Il s'adresse alors aux différents producteurs locaux, aux institutions culturelles, aux instances de la région. Il lance même un appel au public lors d'une émission de télé, en demandant carrément aux Martiniquais de se priver de dîner pour le soutenir financièrement.
Je demande à tous ceux qui aiment ma musique et qui aiment la musique traditionnelle, et qui aiment une musique différente, donc de me donner un balance, si c'est possible, de vous priver peut-être un samedi soir de graille, que cet argent puisse aller au corps musical et revenir à Eugène Mona pour monter un bing-bang et représenter la Martinique en Europe. Je vous remercie beaucoup.
Ce sera en fait son dernier passage télé. Mona ne récolte quasiment rien. Frustré, incompris, Mona succombe à l'une de ses fameuses colères fulgurantes, le 21 septembre 1991. Une colère déclenchée simplement par une dispute avec un voisin.
On dit une congestion. C'est très certainement rupture d'anévrisme. Tôt ou tard, Mona allait mourir comme ça. Dès qu'il y avait une injustice, il se mettait en colère. Il ne pouvait pas supporter l'injustice. Mona avait une forme de colère très brute, quoi. Dans un coup de colère, il pouvait écraser une blanche avec un coup de poing.
Mona a succombé ce matin d'une congestion dans cette maison qu'elle occupait pas au froid.
Le samedi, 8h du matin, la radio m'annonce que Mona a eu un souci. Mona a eu un souci. Et c'est quand nous sommes arrivés à Montcalbas, il était couché à terre. Monsieur Darcier, justement, qui était déjà arrivé, qui lui dit « Ah non, c'est fini pour Mona. C'est fini. » Et dès lors qu'on a diffusé la mort de Mona, toute la population de la Martinique s'est mise debout. Toute. On a tous convergé chez Mona. Pratiquement tous les musiciens du bassin sont venus. C'était Marigot, Vauclin, avec là, des gens sur toute la route.
C'est des obsèques extraordinaires qu'il a eu. Ah là là, on n'a jamais vu ça, hein. Oh là là, les deux grandes obsèques qu'on a vues ici, c'est celle de Jeanne Mona et celle d'Aimé Césaire. Hein. Mona, c'est tous les enfants étaient sur les trois, au Marigot. Il y a eu à peu près 5 km d'embouteillage. Le cortège à pied faisait 3 km. On est compte, un cortège de 3 km. Quand nous sommes arrivés au Vauclin, ce fut pareil. Hein. tout le monde sur les trois, etc. Attendant Eugène Mona, voilà. Non, ça... Mais enfin, Mona appartient à la Martinique. Hein. Il n'était ni de Fort de France, ni de Marion, ni de Vauquien. Il est de toute la Martinique.
Le plus important, on a compris ça, c'est d'affirmer maintenant qui nous sommes. Je crois que c'est ce que les ancêtres attendent le plus de nous. C'est que nous valorisons qui nous sommes. Et puis, ce que je veux vous dire hein, dans tout ça, c'est qu'en dehors de tous les aspects très profonds et sérieux de notre démarche, au grand étonnement peut-être de certains, mais ce qui prédomine, c'est la joie. La joie. À la base, c'est la joie de vivre qu'on exprime. C'est une joie qui résulte de l'appréciation qu'on a de la vie, de la nature, la conscience qu'on a de comment on est nanti par la nature et on exulte à exprimer cette joie dans la musique.
Arte Radio.
Et dites à mon maillot, pas ça que je tire la château dans le nom, le toka ou le tout bagaille. Vous commentez? Bon, mais merci beaucoup, arrivé, au soir, nous pas bailler en balle. Mais avant nous bailler en balle, nous pas en course. Montagne volée, montagne boucle. Seigneur, arrivé, capopié, nous tous, 73 fois, 3 fois, plus appel à la Guinée pour nous voir appeler. Ça qui nous les milliers, ça qui nous va jouer, roulez. Cap en attendant les autres, en attendant les autres, cap en attendant les autres, qui attendant les autres, cap en attendant les autres, en attendant les autres, cap en attendant les autres.
Heureusement mon côté rivé, heureusement mon côté rivé, heureusement mon côté rivé, heureusement mon côté rivé, heureusement mon côté rivé.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Et ce sera la dernière étape de notre voyage de création sonore estivale. Et nous commencerons à nous préparer à l'école en découvrant le feuilleton d'une histoire tout à fait particulière, d'une école un peu bizarre. Bel été et belle semaine sur 48FM.